je vois plus un point inconciliable, pas pour des effets de facteurs ou des raisons physiques, de temps, d'espace, etc., mais plutôt parce que si on dit que d'un côté la Terre a été à deux degrés, qui a impliqué une myriade d'êtres liés les uns aux autres, liés à bactéries, puis les eucaryotes, puis les prokaryotes, puis toute une transmission d'expériences fondamentales pendant des milliards d'années, qui a constitué cette Terre qui a plié, enfin, a constitué la vie, qui a plié la Terre, parce qu'elle a plié les océans, elle a plié l'atmosphère à ses conditions mêmes de vie. La vie a étendu la vie hors de la vie, dans l'atmosphère, les océans, la Terre, etc. Si tous ces ensembles, tous ces ensembles-là forment le réseau de consistance de l'ensemble des vivants, et moi je suis assez d'accord, comment est-ce qu'on peut supposer que l'homme, hors de ce réseau de consistance, pourrait durer un seul instant? Le problème n'est pas de savoir si l'activité humaine elle est naturelle ou artificielle. Le problème, c'est que l'activité humaine qui détruit ce réseau de consistance détruit par elle-même les conditions qui font du bon, d'une certaine manière. Elle détruit la possibilité même de durer. Alors, on peut se dire que la Terre peut durer sans même. Voilà, elle durera sans même, elle reviendra au bout de 4 minutes. Elle demanderait à la bactérie. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait consister l'homme dans la Terre. Qu'est-ce qui fait que la Terre et l'homme ont une forme de consistance réciproque? Est-ce qu'on veut la sauvegarder, cette consistance, ou est-ce qu'on ne veut pas la sauvegarder?
Là, on rentre dans un ordre des sciences. Et si on s'interroge sur la situation particulière de la planète, le grand problème, qui était très clair dans les années 70, qu'on a complètement réfléchi dans les derniers débats sur l'Anthropocène, c'est que la Terre n'est pas au risque de devenir habitable juste par un effet de surpopulation. C'est un excès de vie qui est en train de mettre un danger, c'est-à-dire qu'on est trop humain sur la Terre. Donc déjà, la question change, à mon avis. Ce n'est pas une question de artificialité ou non-artificialité, c'est que c'est un écosystème où, sur l'échelle globale, où une espèce est en train de primer sur les autres, comme parfois les écosystèmes, et donc est en train, effectivement, d'auto-saper sa propre existence, c'est-à-dire de déclencher une série de processus totalement naturels qui permettent à des écosystèmes de revenir à des équilibres où cette espèce est moins présente. Donc, on pourrait, ça c'est juste une manière de rébattre tout cet univers d'arguments qui, à mon avis, part du présupposé faux que l'homme serait une espèce non naturelle et qui met en danger si je peux me permettre, alors tout et je parle là juste à l'historien des idées, des concepts. Le grand problème, je trouve, de l'écologie contemporaine, c'est qu'elle veut bien jouer contre l'économie, le capitalisme, ce qu'on appelle en France le néolibéralisme, et elle a complètement oublié qu'elle participe du même paradigme scientifique. En fait, avant que Haeckel invente les noms d'écologie, les noms de cette théorie extrêmement bizarre que les êtres naturels coexistent en produisant des harmonies complètement de manière automatique étaient économie animale. C'était une branche de la théologie et c'était juste une manière de séculariser l'idée de providence divine. En fait, c'est une manière de penser une providence divine sans Dieu, mais qui est immanente au jeu de êtres naturels. L'écologie n'a rien fait que hériter d'un côté cette idée, donc en pensant qu'il y aurait une espèce d'équilibre totalement naturel entre et l'harmonie préétablie entre les différentes espèces. Et aujourd'hui, cette vision qui est quand même présupposée par énormément de débats écologiques, évidemment, rentre en collision avec tous les connaissances actuelles sur le fait que, non, quand même, il n'y a pas un équilibre parce que la vie n'était pas là, peut-être elle va disparaître, etc. Donc je trouve que parfois, on est pris dans des fausses questions qui relèvent plus du fait qu'on a d'un manque d'hygiène conceptuelle ou d'idée que d'un pragmatisme réel.
Mais cette idée d'une nature qui ne doit pas bouger, cette idée qu'il y aurait un équilibre naturel à ne pas dépasser, je pense que c'est une idée qui c'est vrai, qui est décidée, y compris par des écologistes, etc. Mais je pense qu'on est plus large, je pense qu'au contraire, le fait aujourd'hui de toutes les disciplines, c'est de dire non, il y a une activité pour toutes les formes de la Terre, il y a de multiples agents. Simplement, il faut savoir jusqu'à quel moment ces agents, l'activité de ces agents détruit la possibilité d'une communauté de vie, mais ne détruit pas la possibilité d'une communauté de vie. C'est tout. Sans empêcher les évolutions et les
alentours. Mais là, on part de
parallèlement.
On parle, lorsqu'on parle, parce que vous dites, peut-être on parle du risque que la population mondiale baisse et baisse radicalement. Ce qui, au fond, si on se pose juste d'un point de vue non immédiat, anthropocentré, etc., ça n'a aucun problème. Ça ne représente aucun problème, au contraire, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est une question politique juste, pragmatique juste, c'est comment éviter de détruire les équilibres qui permettent aux communautés de vivre et à l'humanité de continuer à occuper de manière si massive cette planète. Mais c'est une question purement pragmatique et politique. Autre question, si vous souhaitez des questions sous un ordre plus esthétique, philosophique, métaphysique, ces questions n'ont aucune valeur. Parce que, dire que la surpopulation de l'âme produit des substances qui, sur la longue durée, produisent la diminution de notre population humaine, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui, d'emblée, nous fait sortir du rayon de la nature. C'est juste, je pense que parfois on mène deux plans qui sont complètement différents. Un plan qui est où nous sommes inspirés par un intérêt extrêmement égoïstique de rendre possible l'existence de notre espèce sur Terre, et un plan plus général, météorologique, cosmologique, où on continue à projeter un anthropocentrisme totalement illégitime. Je ne sais pas si j'étais clair.
C'est une question de point de vue, d'un côté, en point de vue de l'homme, et d'un autre côté, le plus général. Donc, c'est pas seulement moi qui dis. Mais comme le temps passe, peut-être qu'on pourrait continuer le plan de rencontre entre les expos et. Ça, c'est un choix à faire. Mais c'est Cyril qui décide.
Non, je décide. Il reste 5-10 minutes, alors on peut.
S'il reste 5 minutes, peut-être finir une annonce sur la question de l'immersion et de vos techniques respectives d'immersion dans les écosystèmes que vous reconstituez à partir de vos recherches. Abdel Razak, vous avez expliqué votre expérience incroyable. Je crois que Michel aussi, vous avez des expériences similaires. Ma question de novice, c'est quelle est la part d'interprétation dans les milieux que vous reconstituez ? Ou est-ce que c'est à 100% la retranscription des données collectées ?
C'est les deux, en fait, parce que tous les écosystèmes qu'on peut, ce que j'appelle avec un jargon très, très géologique, les paléo-environnements, les paléo-conditions de l'époque, c'est basé sur tout ce qu'on peut faire selon une étude multidisciplinaire et multi-échelle, multiscalaire, les deux termes, ça c'est pareil. Et donc on part du terrain, d'abord, et puis on continue jusqu'au laboratoire, et puis après on va utiliser tout un tas de techniques plus ou moins sophistiquées. On regardera tout à l'heure quelques exemples lors de la présentation, et au final, à travers tout ça, on va reconstituer un certain nombre de une base de données, tout simplement, et à partir de cette base de données, en comparant avec le principe d'actualisme, donc il faut se méfier quand même, en comparant ce qui s'est passé pendant les périodes géologiques anciennes avec l'actualisme. Par exemple, les marées ont toujours fonctionné. Aujourd'hui, on a des marées sur les côtes bretonnes, en Vendéenne, il y a 3 millions d'années, il y avait des marées, et on le voit très bien, c'est bien enregistré dans la sédimentation, il n'y a aucun souci. Par contre, la différence, c'est la distance de la Lune par rapport à la Terre. Vers les 2 milliards de quelques, la Lune était pratiquement, sous ton contrôle, 20-30% plus proche. Et étant donné que les marées, c'est un effet d'interaction entre la Terre et la Lune, peut-être que le marnage est beaucoup plus important. Donc on intègre toutes ces données-là pour qu'au final, on arrive à dire, bon voilà, notre planète à cette époque-là, elle avait des conditions comme ça, et c'est avec l'oxygène, on est capable, avec des analyses chimiques, je ne rentre pas dans le détail, on peut savoir si on avait de l'oxygène ou pas. On peut aussi calculer le taux d'oxygène dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Il y a 2 milliards d'années, il y en avait moins, évidemment, il y a 3 milliards d'années, encore moins. Et donc, à partir de toute cette base de données, on est capable, aujourd'hui, de reconstruire les conditions paléo-environnementales et les écosystèmes des périodes géologiques anciennes. Alors, en ce qui nous concerne, je suis dans le 2 milliards et quelques, et actuellement, on est en train de travailler aussi sur les 500 millions, donc j'expliquerai plus ça tout à l'heure, parce que c'est deux périodes qui sont deux périodes similaires en termes d'augmentation d'oxygène. On a deux gros plus d'oxygène dans l'histoire, celui à 2 milliards et celui à 550. Et comme par hasard, dans les deux cas de figure, on va voir l'émergence d'une vie complexe, tout change, on voit beaucoup de changements. Et je ne vais pas trop dévoiler ce que je vais raconter tout à l'heure, mais c'est juste pour vous donner l'idée que les schémas ou les écosystèmes ou les immersions qu'on mène sont basés sur des données actuelles, des données scientifiques, que nous, après, par la suite, on arrive à compiler pour arriver à une histoire qu'on raconte.
Mais alors, juste pour que je puisse me figurer, est-ce que cette immersion aquatique que vous avez vécue à travers un écran, est-ce que ça se rapproche d'une immersion qu'on peut vivre nous quotidiennement quand on se baigne ou pas, ou est-ce que c'est complètement une expérience différente qu'on ne peut pas se figurer? Ou est-ce que ça part en fait d'expériences déjà connues et déjà...
Je pense qu'on peut vivre ce genre de choses, et il y a aujourd'hui pas mal. Encore une fois de plus, c'est le principe d'actualisme. Si vous baignez dans un lagon aujourd'hui avec un masque, un tuba, vous allez balader en tombant des bestioles partout, des méduses, des requins, je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc vous êtes, si vous êtes courageux, vous allez vous balader dans un milieu aussi. Moi je l'ai fait dans un milieu de 2 100 000 d'années, donc je suis obligé de passer par le virtuel, j'ai pas trop le choix. Mais l'organisateur a besoin de mes données pour qu'il puisse arriver à ce stade-là, et puis on a beaucoup, on s'est beaucoup concerté. J'ai essayé de rapprocher le plus possible les gens qui ne connaissent pas de comment était notre écosystème à cette époque-là. Donc en se basant sur des faits, c'est pas. Il y a un peu d'imaginaire évidemment, mais on est obligé de se baser sur des faits réels pour dire la température était du temps, la température de l'eau qui a été très discutée aussi à cette période-là, puisqu'on a tout entendu. On nous a dit que les océans étaient à 80 degrés, ce qui est complètement faux. Mais heureusement que les techniques évoluent, et puis la science avance. Donc on a tenu compte de tout ça, et je pense que ce qu'on a essayé de faire à travers cette immersion, c'est de rapprocher le téléspectateur le plus proche possible d'une situation qu'il peut vivre quand il va se balader à Tahiti ou au Bahamas. C'est l'occasion d'aller à Tahiti ou au Bahamas, c'est pas l'occasion, dans un aquarium, mais voilà.
Oui, alors, on utilise cette réalité virtuelle pour préparer des opérations, par exemple, de Curiosity. Curiosity, c'est un véhicule qui est actuellement en fonction à la surface de Mars, dans lequel il y a deux instruments français, enfin, deux instruments de très forte contribution française, et donc, tous les soirs, au moins 6 jours par semaine, parfois 7 jours par semaine, donc, il y a 150 scientifiques dans le monde entier qui se mettent en téléconférence. Dans des centres d'intérieur, avec des moyens qui les immergent à partir des images réelles dans là où est Curiosity et sur ce qu'il va faire devant lui. On l'immerge souvent plutôt devant que derrière, mais on a les images derrière aussi. Et donc, on a des images en stéréo, qui sont manipulées. Et toutes ces scènes font un paysage, et ce paysage, on peut bouger dedans, mais on bouge dedans. Alors, il est prévu que pour 2020, ça puisse se faire à partir des lunettes, comme celles scientifiques pourront travailler chez eux, là ils vont brancher sur Internet et ils pourront même avoir des systèmes en réseau pour pouvoir toucher les roches, enfin, donner des idées et démontrer clairement, directement, qu'elles puissent regarder ce qu'on veut, etc. Absolument. On travaille là-dessus, ça existe déjà, mais c'est pas fait, ce n'est pas opérationnel. Mais tout ça, il y a des gens qui en ont. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, bien entendu, sur les images réelles, il n'y a rien d'imaginé. Enfin, c'est des données recueillies. Hein.
Elles sont traitées par.
Alors, elles sont bien entendu traitées, bien entendu traitées. Et surtout, la NASA, on a des images brutes, mais la NASA, quand elle les présente, les met comme si c'était éclairé sur Terre. Avec la même le spectre, avec un rétablissement du spectre terrestre, avec la luminosité terrestre. Et par exemple, on sait que là, il y a une section 1, c'est là de 300 mètres, 30 fois moins de l'énergie qui est venue de ce qui arrive. C'est forcément plus sombre. Justement, il n'y a pas d'oxygène qui diffuse la lumière du soleil, donc le ciel n'est pas bleu et le sol est différent. Voilà. Et donc les Américains ont mis des lyres, le drapeau américain déjà, qui est mis, c'est bleu, rouge, bleu. Donc avec ça, ils peuvent déjà commencer à ajuster les couleurs. Et donc ils ajustent les couleurs pour être comme si on était, comme si on se prenait au Sahara. Et quand vous regardez les images de l'ESA qui sont magnifiques, ou les images de l'ESA qui font exactement la même chose, vous avez l'impression d'être sur Terre.